7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Effectivement, aujourd'hui, comment être un bon parent ? C'est une question que l'on ne se posait probablement pas il y a quelques années, mais c'est vrai qu'au cours des dernières décennies, la condition parentale a profondément évolué, la pression sociale aussi pour être un bon parent. Alors quel doit être le rôle des parents aujourd'hui ? Accompagner, guider, interdire, contrôler ou peut-être tout simplement aimer ? Nous allons en parler avec nos invités, Anne Bacchus dans le studio, psychologue spécialiste de la famille. Bonjour Anne Bacchus.
Bonjour.
Vous publiez 100 façons de rendre son enfant autonome. Et puis Claude Martin est également avec nous, sociologue. Bonjour Claude Martin.
Bonjour.
Vous êtes avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Armorique, puisque vous êtes à Rennes et vous travaillez à l'Université de Rennes. Vous êtes directeur du Centre de Recherche sur l'Action Politique en Europe. Et vous avez dirigé l'ouvrage « Être un bon parent, une injonction contemporaine ». Également en ligne avec nous, Pascal Gaberel, sociologue de la famille à Lausanne, en Suisse. Bonjour.
Bonjour.
Pascal Gaberel, vous vous intéressez entre autres aux parents, ce qu'on appelle les parents non statutaires, c'est-à-dire non biologiques, qui n'ont pas de lien de sang avec les enfants qu'ils élèvent, ou en tout cas, ils participent à leur éducation. Ça peut être les beaux-pères, les belles-mères, enfin bref, c'est assez vaste. Vous connaissez bien aussi la parentalité aux États-Unis. Et puis nous parlerons de l'Allemagne avec notre correspondante Sarah Roumette à Berlin. L'Allemagne où la mère idéale n'est pas tout à fait la même qu'en France, par exemple. Preuve s'il en est que le bon parent, c'est aussi une construction de l'esprit. Et bien sûr, les voisins et les voisines, on attend vos questions, vos témoignages, où que vous soyez dans le monde. À la lumière de ce que vous vivez vous-même au quotidien avec vos enfants, dites-nous quels parents vous êtes et comment vous vous sentez considéré par votre entourage. 33 1 84 22 71 71. Des messages sur Facebook très nombreux. Massaman à Dakar. Être un bon parent, nous dit Massaman, c'est savoir maintenir l'équilibre, c'est-à-dire ne pas verser dans l'autoritarisme, ni paraître irresponsable. Respecter l'enfant, savoir se remettre en question, être un vrai manager, quoi. Bouna à Nouakchott, en Mauritanie. Mes parents n'étaient pas armés pour me donner l'éducation qu'ils voulaient. Quand je remettais en question leur dogme, ils tremblaient dans leur certitude, mais ils m'écoutaient. Et il trouvait un moyen de m'encourager. Aujourd'hui, nous dit Bouna, me voilà essayant de transmettre mes convictions à mes enfants, sans oublier d'écouter ce qu'ils disent. Un autre message, celui de Lamine à Kaolack. La conjoncture est si difficile que les parents n'ont plus le temps de jouer leur rôle au Sénégal, parce qu'ils quittent la maison pour le boulot très tôt et ils rentrent tard, fatigués par leur dure journée. Donc ils ne peuvent ni corriger les enfants, ni discuter avec eux. Ça, c'est pas une situation spécifique au Sénégal. Parle sous votre contrôle, Anne Bacchus,
qui discutait beaucoup aussi quotidiennement, oui.
Avec les parents qui viennent consulter.
Avec les parents qui viennent me voir, oui.
Parce qu'ils viennent vous voir pour parler des problèmes qu'ils ont avec leurs enfants.
Oui.
On a un certain Jogra qui nous écrit de Goma, en République démocratique du Congo. Être un bon parent, c'est assumer sa responsabilité. Beaucoup de parents au Congo se payent le luxe de faire des enfants, mais ils en font des gosses de la rue. Alors bon, c'est un jugement qui est sévère, mais là, ça nous montre bien aussi à quel point, du nord au sud, les situations et la parentalité est très différente. Ou encore papa qui est à Dakar. Mon éducation, moi je l'ai eu au prix de beaucoup de coups. Frapper son fils, ce n'est pas le détester. Aujourd'hui au Sénégal, beaucoup de parents ne frappent plus leurs enfants et ceux-ci n'obéissent plus. Il faut restaurer les coups dans l'éducation en Afrique. Voilà, ça c'est le point de vue de papa. Ou encore un autre point de vue, Mlino, qui est sur l'île de Rodrigue, qui dépend de l'île Maurice. Le drame de notre jeunesse, c'est qu'elle vieillit trop tôt et grandit trop tard. Allez, à méditer aujourd'hui. (33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer dès maintenant pour dialoguer avec nos invités. Quels parents êtes-vous? Et puis dites-nous aussi tous les affres par lesquelles, enfin, que vous traversez pour élever vos enfants, parce qu'être parent, c'est devenu de plus en plus compliqué. Claude Martin, la parentalité, c'est un sujet qui est partout aujourd'hui, y compris d'ailleurs au cinéma, où l'on raconte désormais, moi j'ai l'impression qu'on voit plus d'histoires de parents et d'enfants que d'histoires d'amour aujourd'hui sur les écrans. Alors, comment et pourquoi on en est arrivé à cette injonction, Soyez, devenez absolument un bon parent, Claude Martin.
Écoutez, je voudrais pas totalement vous démentir, mais en tout cas, ça n'est pas une affaire nouvelle. C'est une très vieille histoire. On peut remonter au moins au tout début du 20e et se souvenir du docteur Spock. On peut se souvenir du marché que représentent les publications de conseils aux parents. Conseiller les parents, c'est vraiment une pratique qui est très ancienne, qui est en effet un marché. Je crois que c'est plusieurs millions d'exemplaires pour ce qui est du docteur Spock, mais on pourrait citer aussi Brazelton, et on a nos équivalents en France. Alors, ce que ça traduit, c'est on a même été obligé d'inventer un nouveau mot, puisque parentalité, c'est maintenant dans le dictionnaire, mais enfin, c'est un néologisme qui a été créé aux fins, justement, de veiller à organiser les pratiques, les conduites, et même de monter en compétence, si on peut dire, les parents. Donc, on a maintenant un mot pour le dire, là où, dans le passé, on avait une attitude assez différente à l'égard des pères et à l'égard des mères. On peut même remonter bien plus loin dans l'histoire, pourquoi pas au traité de l'éducation, l'Émile de Jean-Jacques Rousseau.
On peut même remonter jusqu'à l'Antiquité, où les philosophes
évidemment.
Grecs...
Donc ça montre que c'est une série de normes que chaque société est obligée de remettre sur la table et sur la table de travail, parce que d'une part, il n'y a pas unanimité sur ce qu'est être un bon parent, et d'autre part, qu'aujourd'hui, on a à nouveau une difficulté assez intense, qui est liée à ce que vous avez mentionné dans un des commentaires, c'est-à-dire ce que j'appellerais moi la condition parentale. C'est-à-dire, ça n'est pas facile d'être parent, parce qu'en effet, être parent, c'est avoir du temps, c'est avoir de la disponibilité, et ce qui fait défaut, ce n'est pas de savoir ce qu'il faut faire. On a même pas mal de normes sur ce que serait la réussite probable. C'est la mesure qu'on a tous les jours du fait qu'on n'arrive pas à atteindre, ou qu'on n'a pas les conditions de possibilité, parce qu'on n'a pas assez de temps, parce qu'on n'a pas assez de disponibilité, parce que la vie parentale, c'est compliqué.
Tout le monde s'accorde globalement que être parent, c'est rendre son enfant heureux et puis apte à se débrouiller plus tard dans la vie, à grandir, mais la question, c'est plutôt autour du comment. Pascal Gaberel, vous avez entendu, vous, les messages que j'ai lus, qui viennent de pays très différents. Vous êtes un chercheur, vous travaillez en Suisse, vous avez enquêté aussi dans un pays comme les États-Unis. Vous avez le sentiment que le rôle des parents se définit différemment, ou en tout cas que cette place des parents, avec les injonctions sociales que ça suppose, sont différentes?
Alors c'est un enjeu, en tout cas pour toute la société. C'est quand même l'enfant, c'est quand même la reproduction de la société. Et le débat, comme l'a rappelé Claude Martin, il est très ancien. Le terme de parentalité, je m'excuse de le contredire un tout petit peu, mais il existait déjà en 1900. C'était une anthropologue américaine, Elsie Parsons, qui constatait quelque part la séparation entre ce qui était une famille basée sur le couple et une famille basée sur l'enfant. Et elle était dans un débat où il s'agissait de promouvoir une bonne parentalité déjà à l'époque. Alors ça a été oublié un peu, mais pour reprendre l'intervention de Lamine au Sénégal, le débat est qu'est-ce que c'est qu'un bon parent, c'est aussi être dans une société, dans une économie particulière, devoir travailler, devoir faire tout un travail, qui est souvent un travail caché, qui est souvent un travail féminin, avec des conditions particulières. Et le débat, par exemple, aux États-Unis, avec des normes qui sont imposées à travers des études statistiques ou des normes de bonne parentalité ou de conditions de vie, c'est quelque chose qui varie toujours entre d'un côté le risque, quels sont les risques qu'ont les enfants, et qu'est-ce que c'est que le bien-être, justement ce bonheur, cette capacité à l'autonomie que les parents doivent confier. Et on est dans ce débat-là, toujours aux États-Unis, en disant à qui incombe cette responsabilité, à qui ça appartient, est-ce que c'est vraiment que les parents, et que c'est les parents tout seuls qui peuvent faire ça, ou est-ce que c'est un travail de toute la communauté, ou est-ce que c'est un travail de l'État.
Donc c'est
le débat, il est très souvent, il situe très souvent là-dessus. Ouais. Alors, sur les conditions pour être un bon parent.
Exactement, et ça va être justement les axes de notre émission. Effectivement, est-ce qu'on est dans un milieu fermé, la famille nucléaire, ou est-ce qu'il y a la communauté autour? Est-ce que l'État, parce qu'on le voit bien, notamment en France, est devenu un vrai débat public, hein. Claude Martin, vous nous en direz quelques mots. Anne Bacchus, vous êtes dans la sphère privée, vous recevez dans l'intimité des parents qui viennent vous faire part de leur anxiété quant à leur rôle de parent et l'objectif qu'ils doivent atteindre. Hein.
Alors moi, ce que je constate effectivement à l'autre bout, c'est des parents, alors bon, de plus en plus âgés entre guillemets au moment où ils ont leurs enfants.
Et l'âge du premier enfant en France, c'est 30 ans.
Augmente, hein, et de moins en moins expérimentés, c'est-à-dire ayant de moins en moins eu à s'occuper de petits enfants, ayant de moins en moins vu les parents s'occuper de frères et sœurs, etc. Et mettant cet enfant, ils vont commençant tard, ils vont pas en avoir beaucoup. Donc cet enfant n'est plus, comme il était traditionnellement, à la périphérie du couple parental, mais d'emblée mis au centre, comme quelque chose d'extrêmement précieux, d'absolument génial, qu'il ne faut surtout pas contrarier, abîmer, effleurer, sous peine voilà, d'abîmer ce génie en puissance qu'il va devenir, et qu'on nous amène alors au psy dès que quelque chose... je veux dire, il y a une intolérance totale au moindre dysfonctionnement.
Alors, Claude Martin évoque dans son livre thérapeute pour les normaux. C'est un peu ce que vous êtes,
c'est
non, des parents
ça.
Qui n'ont pas
écoutez,
un grave problème mais qui viennent vous donner des conseils.
On m'amène des enfants avant qu'ils aient un problème parce qu'il y a une situation qui pourrait poser problème. Et donc, je leur explique que moi, il n'y a pas de psychologie préventive, que je ne fais pas de psychologie préventive. Mais voyez, on en est là. Et donc, des parents avec une anxiété, effectivement, et une culpabilité, alors surtout chez les mamans énormes, qui n'arrivent pas à être la mère idéale parce que parce qu'elles travaillent, parce qu'elles n'ont pas le temps, parce qu'etc. Et donc, dès que l'enfant a le moindre souci, c'est leur problème. Elles ne sont pas la mère idéale, elles n'ont pas fait assez, elles n'ont pas été exactement comme il aurait fallu qu'elles soient. Et donc, il y a une culpabilité énorme à ne pas être à la fois la bonne mère, la bonne épouse, la bonne amante, la bonne maîtresse de maison.
On va en discuter, justement. Je redonne le numéro de téléphone du standard 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous pour réagir, pour nous parler de votre rôle qui semble être si difficile aujourd'hui, tout simplement être parent en 2015. Plaisir d'accueillir chaque lot chez 7 milliards de voisins d'Eggy. Nous parlons de la parentalité aujourd'hui. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Que signifie être un bon parent aujourd'hui? Et vous, surtout, comment vous vivez votre situation de parent? Nous sommes en ligne avec Ibrahim, qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Claire.
Non, c'est Emmanuel, moi. Ibrahim, vous êtes informaticien et vous avez un point de vue à nous apporter parce que vous êtes papa d'une petite fille de 2 ans et demi, je crois, hein, Ibrahim.
Bien sûr.
Oui, c'est ça. Et cette petite fille vit avec sa grand-mère. Vous ne l'élevez pas?
C'est pas vrai.
Ouais.
Elle vit avec sa grand-mère.
D'accord. Et la maman, où est-elle?
La maman, elle a refait sa vie. elle est avec un autre mec.
D'accord. Et elle voit sa fille?
Elle voit sa fille régulièrement, presque chaque jour.
Et vous êtes dans quelle situation alors en tant que parent?
Moi, en tant que père, je pars la voir en semaine une à deux fois. Et puis, en week-end, on essaie d'être à trois avec l'enfant pour qu'elle puisse bénéficier de l'affection parentale des deux parents.
Alors justement, si je vous pose
c'est la... encore mineur.
Oui, et vous vous sentez concerné par cette question, quel parent êtes-vous?
Ouais. En tant que parent, personnellement, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Je suis pas heureux dans cette situation. Mais en fait, je dirais que un bon parent, certes, dans les années, il y a 50 ans moins, je crois que élever un parent, un bon parent, c'était celui qui avait de l'attention pour l'enfant d'autrui, pour son enfant. C'était, l'éducation était basée sur la famille, les voisins,
La collectivité, c'est ça.
L'environnement dans lequel l'enfant vivait.
C'est ça, l'enfant était élevé par une collective, par une communauté, c'est ce que vous voulez dire.
Par une communauté, aujourd'hui, j'ai parlé d'adaptation, d'environnement. En effet, c'est pour dire que nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous sommes confrontés à l'informatique, à la numérique. Donc, tout ceci a de l'influence sur les enfants. Et nous, en tant que parents, nous devons canaliser cet aspect de sorte à avoir un œil sur l'éducation de l'enfant, baliser, contrôler, surveiller l'enfant au niveau des établissements, ainsi de suite.
Vous avez déjà ces préoccupations-là alors que votre fille n'a que 2 ans et demi, Ibrahim. Merci pour ce témoignage. Pascal Gaberel, comment vous réagissez à ce papa qui essaie de recréer une vraie famille, un papa, une maman, la petite fille le week-end, et puis avec une famille qui est un petit peu éparpillée finalement, avec cette petite fille qui grandit chez sa grand-mère?
Effectivement, là, on est dans une situation qui est assez fréquente, finalement, parce qu'avec les ménages recomposés, l'appel au réseau électif, à la famille élargie, c'est une situation qu'on retrouve très très souvent. Et il faut, quelque part, il faut inventer, et comme ce monsieur le dit, il invente une situation, il organise les week-ends. Il faut continuer à faire une famille dans une situation assez particulière, où il y a de la coparentalité, la grand-mère qui s'occupe, semble-t-il, assez fortement de l'enfant, et puis en même temps garder ses liens, assumer quelque part le rôle parental.
Ça vous fait penser à des situations que vous retrouvez aux États-Unis, des mères célibataires qui n'élèvent pas forcément elles-mêmes leurs enfants, qui les ont eus très jeunes, par exemple?
Oui, tout à fait. Ça a été un gros problème aux États-Unis pendant notamment les années 80 et 90. C'est en train actuellement de décliner. Et alors ça a des influences très 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 fortes à partir du moment où il n'y a pas les appuis, par exemple, de la famille, il n'y a pas les appuis de l'État ou des associations à travers la communauté. Et c'est des situations qui se retrouvent et qui étaient souvent assez stigmatisées.
On disait socialement, ça, c'est vraiment. Et pourquoi c'est en train de décliner aux États-Unis ce phénomène des mères célibataires qui n'élèvent pas forcément leurs enfants?
Simplement parce que la population, le boom qui a eu, le boom post-baby boom, la génération après est en train de décliner, donc il y a moins de situations simplement.
Mais c'est pas forcément un phénomène de prise de conscience que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les enfants, c'est pas ça.
D'après ce qu'on sait sur les études qui s'intéressent au problème, c'est plutôt un effet démographique. Simplement, la population, le problème diminue parce qu'il y a moins de naissances. Il y a moins de naissances à cet âge-là.
Alors, on examine la parentalité dans tous ces états. Merci beaucoup, Pascal Gaberel, spécialiste de la famille en Suisse, d'avoir été en ligne avec nous. Anne Bacchus et Claude Martin, je vais vous redonner la parole juste après le flash. Vous restez avec nous. Que signifie être un bon parent aujourd'hui? On va tenter de s'éloigner aussi de la famille stricto sensus pour essayer de voir le rôle de la communauté, le rôle du débat public, le rôle de la société, de l'État aussi, parce que c'est devenu un vrai sujet politique dans certains pays, pas seulement en France. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parlera de l'Allemagne aussi juste après le flash dans 3 minutes.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Comment, pourquoi et quel est le rôle du parent dans l'éducation? Être un bon parent, c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. On en discute avec vous, Anne Bacchus, psychologue, Claude Martin, sociologue. Comment vous réagissez, Anne Bacchus, par rapport au témoignage d'Ibrahim qu'on a entendu à Abidjan juste avant le flash? Une famille éclatée, il n'élève pas directement sa fille, qui vit chez sa grand-mère, mais qui voit sa mère plus régulièrement que lui-même.
Mais moi, j'ai bien aimé ce souci d'Ibrahim de rester un père. Ouais, de continuer à s'occuper de sa petite fille, parce que moi j'ai coutume de dire qu'un monde en stéréo c'est mieux qu'un monde en mono, même si on joue pas tout à fait la même musique. C'est justement ce qui donne sa valeur à la musique, c'est que voilà, on a deux parents, ils jouent une mélodie un petit peu différente, mais c'est ce qui donne sa richesse à la musique. Donc quand on a fait un enfant à deux et que les deux continuent à s'en occuper même en jouant pas la même musique, c'est quand même plutôt sympa. Bon, ceci dit, le monde change et tout le monde n'a pas, tous les enfants n'ont pas cette chance là. C'est pas grave, ce qui est important c'est que une parent mentalité soit jouée, que les besoins de l'enfant soient respectés et que des adultes s'engagent auprès de lui. L'enfant a besoin d'un attachement affectif qui soit sécurisant, c'est-à-dire que quelqu'un s'engage auprès de l'enfant durablement, dans la durée, de façon bienveillante, en l'investissant d'un projet éducatif, et que ce projet, l'enfant sache que ça va être dans la durée. Alors que ce soit un parent biologique ou que ça soit pas un parent biologique, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment l'essentiel.
Je vous lis le message de Moussa à Dakar, qui dit: en Afrique traditionnelle, le parent faisait traverser à son enfant de rudes épreuves appelées initiation pour leur faciliter leur insertion sociale. Évidemment, aujourd'hui, on est quand même assez loin de ces épreuves dans le bois sacré. Hein. Et Moussa poursuit: mais actuellement, le parent cherche plutôt à rendre heureux son enfant en essayant autant que possible de satisfaire ses caprices. Mais comment peut-on faire réussir un enfant sans souffrance? C'est une question qui revient souvent dans les messages de nos auditeurs.
Oui. Il ne s'agit pas de rendre un enfant heureux maintenant. Il s'agit de le rendre fort pour plus tard. Et ça passe forcément par le contrarier maintenant. Je vais prendre un exemple tout bête. L'obliger à se laver les dents. Ah ben oui, vous le contrariez, il a horreur de ça. Tous les enfants ont horreur de se laver les dents. Sauf que si vous le rendez maintenant heureux en lui disant « Bon, ben ok, tu les laves pas, c'est pas grave », il aura plus tard des mauvaises dents. C'est aussi bête que ça, en fait. On peut pas rendre un enfant heureux au jour le jour parce que l'enfant est dans le court terme alors que le parent est dans le long terme. Et éduquer un enfant, c'est par moments le contrarier. C'est même très souvent le contrarier.
Claude Martin, vous évoquez bien dans votre livre « Être un bon parent, une injonction contemporaine », le fait que c'est devenu vraiment le rôle des parents, le boulot des parents est devenu un vrai débat public, notamment avec le débat sur l'insécurité, sur la délinquance, et cette phrase qui revient tout le temps, mais que font les parents finalement?
Oui, vous voyez bien que c'est un décodage perpétuel de ce que font les parents qui sont les premiers agents de socialisation des enfants. On prépare l'avenir. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit précédemment, même dans une perspective psychologique, sur l'idée que les parents et la génération, disons, des personnes en âge d'avoir des enfants ou qui en ont déjà, c'est de se préoccuper de la suite. C'est bien ça la question. Du coup, qu'on parle des enjeux de fécondité, comment un État assure la reproduction de sa population, qu'on parle des problèmes d'accès au travail des générations de jeunes, ce qui est un problème absolument majeur aujourd'hui. Il y a une espèce de sentiment qu'on sacrifie une génération qui est pourtant bien dotée, qui est pourtant plus éduquée, qui est pourtant plus diplômée, etc., et qui néanmoins ne trouve pas leur place. Là, on perçoit du coup la coïncidence entre l'anxiété des parents, qui ont toujours le sentiment qu'ils n'en ont pas fait assez pour les préparer, et la préoccupation publique qui est perpétuellement en train de se demander quels sont les risques qu'on fait prendre au futur.
Anne Bacchus, vous disiez en début d'émission que vous avez des parents qui viennent vous voir extrêmement anxieux, voire même pour faire de la prévention psychologique avec des problèmes qui ne sont pas encore là. Finalement, vous, les psys, Anne Bacchus, vous avez remplacé quel chaînon manquant dans la société aujourd'hui? Que se passe-t-il pour que les parents soient tous acculés à aller voir des psys très rapidement et ressentent le besoin d'aller voir des gens comme vous?
Peut-être le village ou la famille dont on parlait tout à l'heure. Peut-être les grands-parents qui étaient assez rassurants et qui avaient un rôle de dire « mais t'inquiète pas, ça va passer, voilà, il a 2 ans, il a 3 ans, c'est normal qu'il fasse des caprices, c'est normal qu'il soit comme si... »
Donc finalement, une forme de solitude parentale.
Probablement. solitude parentale. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les non-dits, il y a beaucoup de tabous. J'ai beaucoup de jeunes femmes qui me disent, mais on m'a pas dit qu'un bébé, ça pleurait autant que ça. Personne
ne l'a dit. Attendez, on a dû mal le croire, c'est partout dans les médias.
Eh ben non. Il y a encore cette image, vous savez, cette famille idéale. Alors, il y a ce deuil du bébé idéal à faire, mais il y a aussi ce deuil de la mère idéale ou du père idéal que je croyais que je serais. Je serais calme, je serais souriante, je l'allaiterais, etc. Et puis finalement, eh ben, il m'emmerde, ce monde. Ouais.
Mais Claude Martin, on est dans une société complètement paradoxale aujourd'hui. On n'a jamais autant parlé du rôle des parents, du travail des parents, du métier d'être parent, et en même temps, ils n'ont jamais été aussi paumés.
Alors, peut-être que comment dire. Moi, je crois qu'il y a une saturation normative. C'est pas du tout un déficit. Quand vous disiez, mais les médias ne parlent que de ça. Mais oui, précisément. Quand on parlait tout à l'heure, quand je parlais tout à l'heure du marché, c'est pour vous rappeler que oui, il y a une presse hebdo spécialisée, oui, il y a des émissions de radio et de télévision, oui, il y a même, pour ce qui est de la télé française, en ce moment, tous les soirs à 20h, par en mode d'emploi, où on se moque justement des difficultés que peuvent avoir les parents ou de leur espèce de petits aménagements avec la norme qu'ils sont continuellement en train de faire. Donc, la préoccupation, elle est absolument énorme. La difficulté, c'est plutôt que cette saturation ne rassure pas. Et je crois que le travail que font les psychologues là, dans l'activité clinique, il me semble, en tout cas, c'est de rassurer, c'est-à-dire de faire baisser ce sentiment de pression.
Cette pression qui... Est-ce que vous faites, c'est votre métier, Anne Bacus, c'est ça, en fait.
Oui, je crois que c'est un peu, quand vous disiez qui faisait ça auparavant, en effet, peut-être qu'on se tournait davantage vers sa propre mère, parce que, précisément, on pensait que là se trouvait une expérience suffisante pour nous, d'abord nous donner le sentiment qu'on n'est pas seul et que ce qu'on est en train de rencontrer comme difficulté n'est pas unique et qu'on n'est pas particulièrement défaillant. Donc cette réassurance, on l'a trouvée dans sa famille, là où aujourd'hui, alors pour des raisons qui sont... liés à nos modes de vie, mais aussi peut-être à la rapidité des changements normatifs. On dira, mais oui, mais attendez, ma mère, au fond, n'était pas dans le même monde.
Donc elle ne peut plus m'aider aujourd'hui, c'est ça? Est-ce que les parents que vous voyez, Anne Bacus, ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas demander d'aide à leurs parents, de conseils à l'autre génération?
D'abord, les mères, elles travaillent. Les grands-mères, elles travaillent encore. Il y a un éloignement géographique. Et puis, je sais pas, il y a très souvent des conflits familiaux et des rivalités familiales qui font que cette bienveillance
n'étale ses problèmes, finalement. C'est pour ça qu'on se sent si confortable dans le cabinet d'un psy, où là, on peut enfin déballer.
On a envie d'être une bonne mère aussi devant sa propre mère.
Oui, c'est ça. Alors, néanmoins, les injonctions sociales sont pas tout à fait les mêmes partout, quand même, pour être la mère idéale ou le père idéal. Nous sommes maintenant en ligne avec notre correspondante à Berlin. Bonjour, Sarah Raumette.
Bonjour Emmanuel.
En Allemagne, au pays de l'enfant roi, que signifie exactement être un bon parent?
Pour commencer, je voudrais vous raconter une petite histoire linguistique qui en dit long. Vous savez qu'en France, on parle de maman poule ou de papa poule pour se moquer des parents qui couvent leurs enfants, donc qui s'en occupent trop, si on peut dire, entre guillemets. En Allemagne, au contraire, on parle de Rabenmutter, ça veut dire mère corbeau. Et en fait, c'est une image plutôt lugubre pour désigner les mères qui laissent leurs enfants en crèche pendant la journée pour reprendre le travail. Et c'est ici très mal vu. Alors, vous parlez d'injonction sociale, c'est exactement ça. Je trouve que ces deux expressions, elles traduisent, elles résument à leur manière les attentes des sociétés de ces deux pays envers les parents et en particulier envers les mères.
Mais est-ce que ça veut dire que toutes les mères allemandes restent à la maison pour s'occuper de leurs enfants?
En fait, beaucoup n'ont pas vraiment le choix, parce que l'Allemagne, c'est un pays qui est un peu assez paradoxal de ce point de vue-là. Il est économiquement très avancé, on le sait, mais socialement, il est très conservateur. Et les rôles familiaux ici sont très marqués, et il est courant que les femmes arrêtent de travailler pendant plusieurs années quand elles ont des enfants. Je vous parle de l'ouest de l'Allemagne, parce qu'en Allemagne de l'Est, c'était très différent. Mais à l'ouest du pays, surtout, mettre son enfant dans une crèche, c'est inconcevable. D'ailleurs, jusqu'à récemment, il y avait très peu d'établissements pour ça. L'équivalent de ce qui est en France, la maternelle publique et gratuite entre 3 et 6 ans, ça n'existe pas. Et donc, généralement, c'est la mère qui reste à la maison jusqu'à ce que l'enfant rentre à l'école primaire à l'âge de 6 ans.
Donc, l'éducation pèse principalement sur les femmes.
L'éducation pèse principalement sur les femmes et une des conséquences, logique presque, c'est que beaucoup de mères cessent de travailler. Ça concerne les deux tiers des mères d'enfants de moins de 3 ans qui arrêtent absolument de travailler. D'autre part, il y a un autre effet intéressant sur l'ensemble de l'économie allemande, c'est que la moitié des femmes allemandes qui travaillent à temps partiel, c'est-à-dire que c'est bien au-dessus de la moyenne européenne, pardon. Et il faut bien comprendre que c'est très clivé, très genré, ça ne concerne qu'un homme sur dix, le travail à temps partiel. Par contre, ça concerne la moitié des femmes allemandes, et c'est un temps partiel qui est en fait plus imposé que choisi d'une certaine façon, parce qu'elles se retrouvent dans l'obligation de devoir, elles, concilier la vie de famille et la vie professionnelle. Et la véritable conséquence de tout ça, vous parliez à l'instant des enjeux de fécondité au niveau des États, c'est ça la véritable conséquence, et qui est particulièrement grave pour le pays, c'est la chute vertigineuse de la natalité en Allemagne. Ici, il y a 8 naissances pour 1000 habitants. C'est le taux le plus bas du monde, en fait. Alors, bien sûr, il y a plusieurs causes à cela, hein, mais l'une d'entre elles, c'est que pour les femmes, et seulement pour elles, avoir des enfants, ça suppose de renoncer à un parcours personnel et professionnel sans que ce soit choisi, sans que ce soit un choix.
C'est ça.
Et voilà, le gouvernement là, a pris conscience du problème, essaye de changer les mentalités par la loi. Depuis 2013, l'État s'engage à garantir maintenant aux parents une place de crèche à partir de 3 ans, donc c'est une révolution ici. Mais dans les régions conservatrices du sud de l'Allemagne, la Bavière, le Bade-Württemberg, la femme au foyer qui sacrifie sa vie, entre guillemets, pour s'occuper des enfants, ça reste le modèle dominant et visiblement, ça décourage les futures mères.
Renoncement, sacrifice. Merci beaucoup, Sarah, pour ce point sur les mamans, les Rabenmutter en Allemagne, celles qui travaillent et qui arrivent trop tard à la crèche pour aller chercher leurs enfants. Anne Bacchus, là-dessus, sur cette idée de renoncement, de sacrifice, c'est un tabou en France? On veut tout? Comment c'est vécu plutôt?
Oui, alors en France, on veut tout. C'est-à-dire qu'en France, on concilie à la fois les enfants et une carrière professionnelle. Alors, c'est formidable.
On a un taux d'emploi
c'est extrêmement fatigant.
Très, très élevé.
Et,
hein,
et on continue à faire des enfants, tout. Alors, c'est formidable, mais c'est très fatigant. Et les mamans sont très fatiguées, mais elles font tout. Et moi, j'ai envie de leur dire chapeau, bravo.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On a pas mal d'auditeurs qui veulent absolument témoigner de la façon dont ils se voient en tant que parents. Anandi nous appelle de Chennai à Madras, dans le Tamil Nadu, en Inde. Bonjour Anandi.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes professeur de français, vous êtes indienne, c'est pour ça qu'on a la chance de vous avoir au téléphone. Vous nous avez contacté sur Facebook.
Oui, merci. En fait, en Inde, Emmanuel, le rôle de parent a beaucoup changé ces dernières décennies. Avant, la famille était très conservative, stricte, et les parents étaient autoritaires, et ils accordaient moins de liberté aux enfants, et toutes les décisions ont été prises par les parents. Et l'enfant doit les obéir, sans parler, sans s'exprimer. Et aussi à cette époque-là, quand j'étais jeune, la fille n'a pas eu la permission de poursuivre leurs études ni leur carrière.
Oui.
Mais dans mon cas, mes parents ont décidé que je vais me marier à l'âge de 19 ans et tout ça. Donc j'ai dû arrêter, j'ai dû sacrifier mes ambitions, mes rêves. Et fonder une famille.
Alors aujourd'hui, vous avez un fils de 25 ans, Anandi. Quelle mère vous avez été et quelle mère vous êtes toujours d'ailleurs avec lui?
Je vais vous parler de ça. Par contre, aujourd'hui, j'ai une relation amicale avec mon fils. Les parents ici ont, la société a beaucoup évolué, et on joue un rôle de guide, d'amis pour les enfants, on les aide. Et on se tisse les liens, les relations basées sur la confiance, la compréhension.
Oui.
Et en fait, on encourage nos filles de poursuivre leurs éducations, construire leur propre identité.
Oui. C'est intéressant de vous entendre, une mère indienne qui dit « j'ai une relation amicale avec mon fils, Anne Bacchus ». Ça vous étonne? Parce que, est-ce que c'est un mot qu'on peut employer quand on est parent, d'ailleurs?
On est parent d'un enfant qui est devenu parent, qui est devenu adulte, je veux dire. Hein. Et donc, la relation devient égalitaire. Oui, moi, je trouve ça formidable quand nos enfants deviennent des amis.
Donc, relation de confiance. Et vous nous disiez, Anandi, que vous avez cherché, en fait, à être surtout un guide. Hein. C'est-à-dire, vous n'étiez pas tellement dans le contrôle et dans l'autorité.
Non, jamais, jamais.
Mais en réaction à l'éducation que vous-même vous avez reçue ou pas, finalement?
Ah oui, j'ai reçu, c'est mon mari qui m'a encouragée de poursuivre mes ambitions. Et c'est grâce à lui, maintenant je travaille, j'ai ma carrière. j'ai quelque chose qui, je peux dire, c'est mienne, mes efforts, mes rêves. Et c'est par contre, en Inde, en fait, on constate son changement de société. En fait, même dans les villages, les filles sont encouragées de prendre leur vie, contrôle de leur vie. Et c'est ça que je voulais parler, parce que quand on dit indien, les parents indiens...
Oui, il y a une très grande diversité, de toute façon, dans le pays où vous êtes. Merci beaucoup, Anandi. Sûrement, vous réagirez de nouveau le jour où on fera une émission sur l'éducation des filles en Inde, parce que c'est un vaste sujet. On parle de la parentalité aujourd'hui. Quel parent êtes-vous? Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Salimata, qui est en région parisienne. Bonjour, Salimata.
Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Anne-Baptiste. Je vous appelle vraiment. Je suis vraiment intéressée par l'émission. Donc, surtout que les parents, pour bien éduquer les enfants, il faut que les parents évitent de divorcer, parce que le divorce, c'est pas bon. Il faut vraiment, comment ça s'appelle, il faut être altruiste, surtout, et penser à l'éducation des enfants. Parce que l'éducation des enfants, c'est vraiment, c'est un métier. C'est un métier, c'est pas on travaille à
mi-temps. Pourquoi vous avez cette position sur le divorce, Salimata? Vous, quelle est votre situation?
Moi, je suis mariée avec 3 enfants. Donc, j'ai élevé 3 enfants. J'ai pensé surtout à l'éducation des enfants. Et pour éduquer les enfants, je me suis rendu compte que la présence des deux parents, c'est très important. Et quand on décide de faire des enfants, il faut vraiment se mettre à plein temps pour s'occuper des enfants et être altruiste. Il ne faut pas penser qu'à soi. C'est très important pour l'éducation des enfants. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai créé l'association des mamans sans frontières après avoir éduqué mes enfants. Et jusqu'à ce que
Soulevez un point intéressant sur le divorce, Salimata. Je vous remercie beaucoup de nous avoir appelé, parce que le divorce aujourd'hui est devenu, bon, ça touche Anne Bacchus, une famille, enfin un enfant sur deux est issu d'un couple divorcé, enfin vit aujourd'hui avec dans une situation où les parents sont divorcés, si je me trompe pas.
Non, ça n'est pas ça. Non. Je suis désolée.
En région parisienne, un couple sur deux.
Oui, mais c'est un peu l'idée qu'on véhicule. C'est un mariage sur deux débouche sur un divorce, mais au sens où ce ne sont pas les mariages de l'année qui débouchent sur les divorces de l'année. En général, on ne divorce pas la même année de son mariage.
Bien sûr.
Donc, non, en réalité, il y a un taux de divorce qui est bien sûr très élevé, mais ça ne concerne pas un couple sur deux. C'est un taux, on préfère le rapporter à 1000 habitants quand on veut le rendre plus neutre, puisque vous voyez qu'on compare mariage de l'année et divorce de l'année. C'est ça le 1 sur 2.
Alors comment s'imbrique justement aujourd'hui le divorce et la parentalité dans la réalité, ce que vivent les gens?
Je crois que sur la question du divorce et de la parentalité, ce qu'il faut probablement beaucoup souligner, c'est que ce qui est très difficile pour les enfants, c'est le conflit. C'est-à-dire de grandir dans le conflit conjugal et dévastateur. Il ne s'agit pas de dire, évidemment, que le divorce est toujours une résolution de problème, mais il faut au moins admettre que de temps en temps, il l'est, et que le rôle parental, on peut l'exercer à deux ensemble, ou on peut l'exercer à deux en étant plus ensemble, et que de temps en temps, c'est un moindre mal que d'envisager le divorce. Le divorce n'est pas en tant que tel toujours la cause de la souffrance des enfants. Ce qui est une souffrance, c'est de grandir dans un couple qui se détruit mutuellement, et de ne pas envisager les effets du non-divorce dans ce cas-là. Vous voyez, je crois donc qu'il ne faut pas être... Le divorce est une émancipation aussi de situations qui sont invivables, y compris de violence.
Anne Bacchus, votre position là-dessus?
Bon, on a des enfants heureux de parents ensemble et malheureux de parents ensemble et pas ensemble. Je veux dire que c'est, il peut y avoir des enfants épanouis. Je suis absolument d'accord que ce qui les abîme, ça n'est pas la séparation. C'est effectivement des parents qui disent du mal l'un de l'autre, des parents qui se servent de l'autre, qui manipulent les enfants pour atteindre
l'autre.
Mais
la séparation,
etc.
Le divorce change quand même la parentalité.
Alors, le divorce est une grande souffrance pour les enfants, que les enfants peuvent dépasser si les parents s'entendent pour continuer à répondre
de façon solidaire aux besoins des enfants. Et je parlais tout à l'heure de besoin d'un attachement sécure, c'est-à-dire s'ils savent, les enfants savent que l'attachement à leurs deux parents reste sécure, que leurs désirs sociaux sont maintenus, leurs besoins de structure, leurs besoins de continuité sont maintenus.
Est-ce que pour les parents, c'est plus compliqué de donner ça à son enfant dans un couple divorcé? C'est plus compliqué. Il y a des questions autour de cela pour aménager cette sécurité, sécurité affective.
Il faut être adulte, il faut arrêter de se chamailler un peu et être capable de faire passer les besoins des enfants d'abord.
Oui. Vous avez ce sentiment-là aussi, Claude Martin, que les grands questionnements autour de la parentalité, tout de même, viennent aussi de la déconstruction, de la décomposition, des évolutions familiales?
Oui, bien sûr, on ne peut pas ne pas souligner que c'est difficile d'exercer ce rôle quand il y a des accidents dans la trajectoire des familles. Ça complexifie. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que dans le passé, les choses étaient, un espèce d'âge d'or où, parce qu'elles étaient stables, les familles étaient heureuses. Il faut quand même parler de la condition des femmes dans cette époque des Trente Glorieuses où il n'y avait pas de possibilité de destin sans dépendre d'une autorité, d'un chef et d'un détenteur à la fois de tous les droits et de toutes les capacités de décider.
Donc, pas de nostalgie du passé, mais non, pas d'idéalisation pas. Non plus du temps présent. On regarde les choses face et on accueille des auditeurs. 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Amour qui est à N'Djamena au Tchad. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour aux invités.
Vous êtes une mère de 4 enfants, Amour, vous avez une question pour nos invités?
Oui, je suis mère de 4 enfants et puis j'ai deux autres enfants qui sont chez moi. Donc j'en ai au total 6 et ça va de 17 à 6 mois. Et donc la question que je voudrais poser, c'est comment être une bonne maman, surtout au niveau de l'éducation. Quand les enfants rentrent de l'école et qu'ils veulent pas étudier les leçons, est-ce qu'il faut, c'est ce que j'essaye de faire, j'essaye de trouver le juste milieu, les obliger par moment à étudier, par moment je laisse faire. Mais souvent, je laisse faire, souvent le résultat n'est pas au rendez-vous. Et donc, je ne sais pas comment faire pour trouver le juste milieu, parce qu'autour de moi, j'essaie de discuter avec les enseignants qui sont des pédagogues et qui me disent que plus on force, plus l'enfant est stressé et il fait semblant d'étudier, mais peut-être en réalité, il n'étudie pas.
Ouais. Alors du coup, vous ne savez plus où vous en êtes, effectivement. Oui, on comprend votre questionnement. Et beaucoup de parents comme ça, Anne Bacchus, qui sont inquiets sur la question scolaire et le rôle qu'ils doivent avoir par rapport à la réussite scolaire.
Oui, alors c'est difficile de vous répondre, Amour, par une réponse générale, parce que chaque enfant est différent. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que souvent, quand ils rentrent de l'école, ils ont besoin d'un moment de détente. Ça, c'est sûr, ils ont besoin de commencer par manger un truc, se détendre, etc. Et puis après, s'il y a des devoirs, il y a un temps. Il y a un temps pour les devoirs où on les met chacun face à son cahier. Voilà, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais après s'il y a quelque chose qui est promis derrière d'agréable, et ben ce sera quand tu auras fini tes devoirs, quoi. Il y a un temps pour ça, et puis ce qui doit être fait, quoi. Mais c'est vrai que c'est important de leur dire que c'est pour eux qu'ils travaillent, quoi. C'est pas pour vous, c'est pas un ordre que vous leur donnez, c'est pour eux, pour grandir, pour avoir après une formation qui les intéressera. Mais ça se construit petit à petit. Peut-être que les grands peuvent entraîner les plus jeunes aussi, que les grands peuvent montrer l'exemple. Je ne sais pas si celui ou celle de 17 ans devenu autonome dans cette voie.
C'est pas simple de gérer famille de 6 enfants avec des âges très différents.
Ça, c'est certain.
Amour, merci beaucoup de nous avoir appelés. Je voudrais lire le message, un très beau message de Soraya qui est à Lomé au Togo. Je ne suis pas encore parent, je ne sais pas quelle est la meilleure éducation qu'il faut donner à son enfant, mais intérieurement, j'ai toujours reproché à mes propres parents d'avoir échoué dans mon éducation. Aujourd'hui, ni mon père, ni ma mère ne peuvent dire qu'ils me connaissent, parce qu'on ne dialogue jamais. Ils ne connaissent pas mes rêves. Et je crois que de nos jours, il y a encore des parents qui ne veulent pas abandonner les habitudes archaïques. Ils sont des dictateurs et font que les enfants ne s'ouvrent pas à eux. Waouh, c'est un message fort de Soraya. Je ne sais pas comment vous réagissez, Claude Martin, à ça, parce qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, on a des temps qui se télescopent, des générations qui se télescopent également.
Oui, tout à fait. En tout cas, ce qui est frappant, et je crois que ça vaut beaucoup pour le cas français, où beaucoup d'enfants dans les enquêtes internationales, quand on pose des questions à des enfants d'âge de l'âge du collège, s'ils ont l'impression de pouvoir parler de ce qui les préoccupe avec leur père, leur mère, leur groupe d'âge, etc., nous sommes les 27e sur 27 pays dans la comparaison. Autrement dit, il y a vraiment quelque chose qui ne se passe pas du point de vue de ce partage des préoccupations avec nos jeunes. Mmh. Et une des préoccupations qui domine, c'est beaucoup la question scolaire. Mmh. Et je pense qu'elle vaut bien au-delà de la France. Voilà, qui est cette peur d'échouer, qui crée une tension très forte dans les relations.
Et qui empêche le dialogue. Peut-être, Anne Bacchus, on arrive au terme de cette émission, justement. Peut-être un mot de conclusion sur ce que vous vivez, vous, avec les parents qui viennent vous consulter.
Oui, il y a une des choses que je portais de dire aujourd'hui, c'est que les parents ont l'impression qu'être un bon parent, c'est aimer. Voilà, c'est aimer très fort. Et que du moment qu'ils aiment très fort, ils sont des bons parents. Mais aimer, c'est quand même un drôle de mot un petit peu fourre-tout, et qu'on peut aimer en étouffant, et qu'on peut aimer en serrant trop fort autour du cou, j'ai envie de dire. Et que, en fait, aimer des enfants, c'est une façon très particulière d'aimer, puisque c'est aimer pour faire partir, en fait. Et c'est pas aimer comme j'aime les fraises et j'en mange le plus possible, ou comme j'aime mon mari et je veux le garder le plus longtemps possible. C'est aimer pour rendre autonome, pour faire s'éloigner de moi. Et donc être un bon parent, et ben c'est être un parent dont on peut se passer.
Voilà. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin, et surtout l'adage de sagesse pour terminer la semaine. Merci beaucoup, Anne Bacchus, psychologue. Vous avez publié 100 façons de rendre son enfant autonome aux éditions Marabout. Claude Martin, sociologue, vous avez publié un ouvrage collectif, Être un bon parent, une injonction contemporaine, aux éditions Presse de l'EHESP. Et merci aussi à Pascal Lagaberel, sociologue, d'avoir été en ligne avec nous de Genève. Merci à toute l'équipe. Lundi, 7 milliards de voisins. Quel sort pour Asia Bibi, première femme au Pakistan, être condamné à la pendaison pour blasphème. Cette mère de famille ouvrière agricole et chrétienne attend la réouverture de son procès dans les semaines qui viennent. À lundi.